17h sur Radio HDR et vous le savez, 17h sur Radio HDR, c'est l'heure du Blabla Mix, votre émission 100% culturelle, 100% tout, 100% blabla avec un petit peu de mix dedans également. Et on salue les amis HDRiennes, les amis HDRiens, les amis de Gramont, les amis d'Evreux, les amis du sud de l'Eure et tous ceux qui nous écoutent également un petit peu partout dans le monde sur radiohdr.net. Nous sommes ce soir en très bonne compagnie, bien sûr l'ami Ousmane qui est là à la régie qui nous prépare tout plein de bonnes choses. Bonsoir Ousmane.
Bonsoir.
Donc voilà, bonsoir Ousmane. Bien sûr, vous le savez, en ce moment, on a bien sûr l'ami Jordan qui est également avec nous ce soir. Et disons-le, le jeudi, ce n'est pas le jour de Jordan. Bonsoir Jordan.
Bonsoir.
Ça va ce soir, Jordan ?
Ça va un peu. Hein.
Ça va un peu, effectivement. Vous le savez également, le jeudi, c'est le jour de votre histoire et de votre chronique crime organisé également. Aucun rapport, bien sûr, aucun sous-entendu, puisque nous sommes avec l'ami Mansour qui ce soir nous a préparé un petit peu une chronique souvenir, une chronique nostalgique, puisque c'est une chronique qui retrace la vie de l'ami Jacques Chirac. Bonsoir Mansour.
Bonsoir, tout à fait.
Est-ce qu'on peut s'attendre à des petites surprises sur Jacques Chirac ?
Des petites anecdotes par rapport à son parcours.
Des petites anecdotes, un sacré parcours en effet. Nous sommes également avec l'ami Mohamed qui est en train de filmer cette émission et qui n'est pas au micro, mais on le salue tout de même, ça fait plaisir de l'avoir avec nous. Et puis voilà, alors ce soir, qu'est-ce qu'on va retrouver ? On vous l'a dit, vous allez retrouver bien sûr de l'agenda, la chronique de Mansour. Ousmane et moi-même sommes d'ailleurs partis ce matin à la cellule psychologique, la cellule d'assistante psychologique mise en place, si je ne m'abuse, par la mairie.
La préfecture.
La préfecture, autant pour moi, mise en place par la préfecture, qui met beaucoup de choses en place, la préfecture. Rive gauche, hein, nous avons pu nous entretenir avec le docteur Navarre, qui nous a parlé un petit peu de cette cellule psychologique. Et puis ensuite, on retrouvera bien sûr nos invités, c'est les femmes, bien sûr, de l'association France Solidarité Palestine, qui organise le festival Regard sur la Palestine, et c'est le 4, 5 et 6 octobre. Mais vous en entendrez parler plus longuement, donc après 17h30. Et puis en attendant, je propose qu'on parte en musique, puisque si je ne m'abuse, mon cher Ousmane, on a de la musique de prévu, en l'occurrence la grande Sophie, c'est ça ? Eh ben on s'écoute ça tout de suite.
Ne soyons pas ridicules, voyons-nous encore demain. Une vie, on n'en a qu'une, toi et moi prenons-en soin. Ne soyons pas ordinaires, droit debout face au destin. Une vie, on n'en a qu'une, des chagrins, on en a plein. Le temps passe comme un train. Une vie, on n'en a qu'une, de rocher ou de satin. Ne soyons pas vulnérables, si le temps est incertain. Une vie, on n'en a qu'une, des soucis. Tous les deux de rester loin. Une vie, on n'en a qu'une. Nous ne sommes que deux humains. Nous marchons droit sur la ligne, à la croisée des chemins. Une vie, on n'en a qu'une. De l'amour, on en a plein. De moi j'écoute plein, toi à mon oreille, plein, toi je sais que tu vas mieux comme ça,
C'était la Grande Sophie avec Une Vie. La Grande Sophie qu'on va bientôt pouvoir retrouver dans le cadre du festival Chandelle au théâtre Charles Dullin au Grand Quevilly. Donc c'est jeudi 28 novembre. Et puis le festival Chandelle, vous le savez, on vous en parle depuis un petit moment. C'est ce fameux festival, là c'est sa 20e édition. Ce festival qui se veut mettre en avant les chansons de femmes sous tous leurs aspects, sous toutes leurs coutures, sous toute leur culture aussi. Et c'est important sur le mix des cultures. Donc voilà, ça le festival Chandelle, ça se passe du 29 octobre au 29 novembre. Et donc on pourra retrouver des artistes. Donc tels que la Grande Sophie, je vous l'ai dit, Clarica également le mardi 12 novembre au Trianon Transatlantique à Sotteville-lès-Rouen, Lisa Simone aussi à La Traverse, ça c'est à Cléon et ce sera le 29 novembre, et évidemment bien d'autres artistes, et vous pourrez bien sûr retrouver toutes ces autres artistes sur le site du Festival Chandelle, donc www.festivalchandelle.org, également sur les réseaux sociaux, puisque Radio HDR c'est une radio jeune, une radio donc qui connaît les réseaux sociaux, et bien sur Facebook vous retrouverez tout ça à Festival Chandelle, hein, j'imagine que c'est une page Facebook ou un groupe Facebook peut-être. Je ne sais pas, on est très jeune, mais on...
20e édition, c'est pas aussi jeune que ça. Bah là... Non, je
dis. Ah bah voilà.
Et la 20e édition de Festival Chandelle, alors. Donc ça doit
ah bah le festival n'est pas jeune, mais nous sommes une radio qui restera toujours jeune, mon cher Ousmane. Et on peut bien sûr retrouver ça également sur Twitter. Alors Twitter, là, c'est hashtag, qu'est-ce que je raconte ? C'est difficile de vieillir, hein. C'est @chandelle sur Twitter, voilà. Sinon, dans un registre un peu moins joyeux, mais tout aussi important, il y a bien sûr le spectacle Les Teneurs. Alors le spectacle Les Teneurs, ça aura lieu le vendredi 4 octobre. Je vous lis la petite plaquette parce que le texte, je trouve, expliquera ça mieux que moi. Nous sommes 10 jours après un attentat sur le sol français qui a fait plusieurs morts ainsi qu'une quinzaine de blessés. Une équipe de médiateurs culturels est envoyée sur place pour écouter la population, l'entourage du terroriste, sa famille, ses voisins, ses amis, afin d'apaiser les tensions. Donc c'est 5 comédiens qui jouent chacun 2 personnages, un prologue, des chœurs, un épilogue. Ça se veut donc être une tragédie. C'est Les Teneurs, donc écrit par Gaëtan Pau, d'après des travaux de Séraphin Alava et Racha Nagem. Séraphin Alava que vous pourrez d'ailleurs retrouver après la première représentation pour un petit débat qui aura lieu donc vendredi 4 octobre 2019 à 14h au centre Simone Veil chez les Amis de Gramont et également le soir à 18h30, donc toujours le vendredi 4 octobre, au théâtre L'Étincelle. Et puis sinon, ce vendredi, qu'est-ce qui se passe comme chose ce vendredi ? Ce vendredi, on pourra également retrouver donc Le Gueuloir, un fameux spectacle itinérant donc, dont on vous parle un petit peu hier. Donc vendredi 4 octobre à 18h, c'est sur la place Alfred de Musset, difficile de faire plus près de nous. Et donc voilà, c'est un monsieur, un conteur, un crieur de rue qui voyage un petit peu partout en France, qui recueille des histoires et qui vient nous les raconter, qui recueillera également ici des histoires qu'il ira raconter ailleurs, et c'est plutôt intéressant. Et puis bien sûr, vendredi 4 octobre, vous le savez, c'est également le début du festival Regard sur la Palestine, dont on vous parlera plus profondément tout à l'heure, et je laisse maintenant la parole à l'ami Ousmane qui a aussi des choses à vous dire.
Mais effectivement, donc tu nous parlais du festival Chandelle et ça se passe partout, et où est-ce qu'on peut, on peut trouver de la scène aussi, et il y en a pour tous les goûts, pour tout le monde, c'est le mix des cultures. Et effectivement, donc sur les Hauts-de-Rouen, il y aura Afrique Étincelle, donc qui est proposé par L'Étincelle, Afrique Étincelle, Étincelle, tu vois ça.
C'est
ça...
plutôt logique, effectivement.
C'est étincelant. Et donc...
Est-ce que Radio HDR, c'est aussi la radio de l'humour ?
C'est effectivement ça. Et ça aide à vivre. Donc, il y aura Oumou, donc, qui est ambassadrice de la culture marocaine et qui sera sur les Hauts-de-Rouen avec Sona Diobarté, donc originaire de la Gambie, donc qui vont représenter cette côté de Chandelle à l'africaine, à la sauce africaine, sur les Hauts-de-Rouen. Et à partir du 7 novembre, donc à 20h à la salle du Jouvet, c'est 153 rue Albert Dupuis, c'est sur les Hauts-de-Rouen, proposé par L'Étincelle. Donc voilà, c'était pour vous parler ça. L'Étincelle, il y a aussi donc, voilà, des cours de hip-hop pour les jeunes des Hauts-de-Rouen et de partout de la ville. Donc voilà, ceux qui sont passionnés de hip-hop, n'hésitez pas à aller contacter Marine Nativelle, donc voilà, qui propose ça, et aux habitants, et aussi pour animer aussi ce quartier.
Super. Et toi-même, Jordan, je t'ai vu tout à l'heure prendre des notes. Tu voulais nous parler de quelque chose qui te tient à cœur.
Ah oui, toujours Lubrizol. Hein.
Toujours Lubrizol. Hein. On n'a pas fini de leur nifler, cette histoire de Lubrizol.
Bah, après l'incendie de Lubrizol, des mamans d'enfants en bas d'âge veulent porter plainte. Une 20aine de familles, maman et papa, s'inquiètent pour leur santé de leur futur actuel enfant après la catastrophe de Lubrizol. Il pose plainte contre X.
Ouais, une plainte, encore un sujet très chaud, Lubrizol, dont on vous reparlera d'ailleurs demain, puisque demain on fait un petit peu un recueil. Une émission spéciale, Lubrizol, puisqu'on a recueilli beaucoup de choses pour vous. Beaucoup de témoignages, des interviews de tous les types, de responsables politiques nationaux, locaux, notamment avec l'ami Alexandre, que vous connaissez peut-être si vous écoutez l'actu des ados. Et donc ça, voilà, c'est quelque chose que vous pourrez retrouver demain. Il y aura bien sûr Ousmane, Alexandre, Jordan sera certainement là, s'il est toujours vivant, le pauvre Jordan. Voilà, il y aura plein de bonnes choses, ne ratez pas ça. Et puis, ce qu'on aime bien également sur Radio HDR, c'est la musique, et on vous mettra de la musique tout à l'heure, quand j'aurai fini de vous parler de Lubrizol, bien sûr. Là, je ne vous cache pas que l'ami Ousmane est en train actuellement de rechercher des informations, et du coup il ne nous entend pas, mais c'est pas grave, on va continuer de parler tranquillement. Ça y est, il a vu mes signes de détresse.
On a du monde qui nous rend visite, alors du coup, qu'est-ce que tu veux?
On va s'écouter Brick and Lace, non? Le temps d'aller saluer nos visiteurs.
Bien sûr, donc Brick and Lace.
Brick and Lace avec Love is Wicked.
Et principes actifs 99.1 et 102.4.
Et on vous le disait tout à l'heure avant d'écouter Brick and Lace avec Your Love is Wicked. Love is Wicked, je crois même d'ailleurs. Un morceau qui n'a pas manqué de parmi nous de rappeler des bons moments du passé. Voilà, l'époque où on était encore jeunes et fous. Et à l'époque où on n'était pas encore dépassé par les nouvelles technologies, d'ailleurs. Bon, alors, trêve de plaisanterie.
À cette époque, est-ce qu'il y avait les écrans tactiles?
Je ne suis même pas sûr. En tout cas, à cette époque, je n'avais pas de barbe et j'avais encore plein d'espoir pour l'avenir. Je ne faisais pas encore des blagues de vieux. Et surtout, à cette époque-là, je n'avais pas encore réalisé la petite interview qu'on a réalisée ce matin. Mon cher Ousmane, interview donc du docteur Navarre, on vous le disait tout à l'heure, psychiatre qui apporte son soutien donc dans le cadre de la cellule psychologique mise en place par la préfecture à la population pour notamment les personnes qui auraient été choquées ou inquiétées par les événements de Lubrizol. Donc voilà, on a été l'interviewé, vous expliquera ça mieux que moi. Je propose qu'on écoute ça tout de suite.
Je suis le docteur Christian Navarre, psychiatre, responsable de la cellule d'urgence médico-psychologique de Seine-Maritime. Nous avons mis en place cette cellule qu'on appellera plutôt un accueil psychologique citoyen pour aider les gens à gérer leur stress par rapport à la situation sur Rouen. Il faut savoir que la cellule d'urgence avait déjà été déclenchée après l'explosion parce que nous craignions un grand nombre de victimes, de blessés, de décédés, des familles endeuillées. Et donc, heureusement, je crois qu'il faut aussi relativiser les choses, heureusement, ça n'a pas eu lieu et nous avons donc désactivé notre cellule. Mais il semblerait, au bout de quelques jours, que l'angoisse collective et nécessité de la part des élus, la préfecture et l'agence régionale de santé que nous fassions une action pour montrer que les gens n'étaient pas abandonnés. Mais par contre, je veux être très précis, nous n'avons aucune réponse sur le plan médical, juridique. C'est plutôt un moment d'échange pour ceux qui le souhaitent, au sens où, pour certains, la situation doit être résiliente, c'est-à-dire qu'on doit avancer. On n'est pas là pour faire du soin, on n'est pas là pour faire de la psychothérapie. On est là pour dire aux gens, il faut continuer. La vie, c'est aussi ça, c'est des moments difficiles. On avance et on s'adapte.
Je ne sais pas dans quelle mesure c'est pertinent, parce que je suis assez peu savant de médecine, mais quelle est votre spécialité à la base, à vous, docteur Navarre ?
Moi, je suis psychiatre, médecin psychiatre. Mais là, on n'est pas du tout dans la psychiatrie, on est là dans quelque chose qui est l'ordre plutôt du psychosocial. Comme vous voyez, il y a la Croix-Rouge. Et la Croix-Rouge, ce sont aussi des gens qui font du soutien psychosocial lorsque les gens sont éventuellement en détresse. Là, on est à la limite de l'intervention, mais c'était aussi un geste citoyen, comme je l'ai dit, pour montrer que les Rouennais s'entraident, puisque nous sommes tous aussi Rouennais, donc dans la même situation que les gens qui viennent nous voir, qui ne sont pas des patients, qui sont des gens comme tout le monde.
Finalement, pour ne rien vous cacher, je m'attendais à ce qu'il n'y ait pas tant de gens que ça, puis ça a l'air quand même de malheureusement bien tourner cette histoire. Il y a beaucoup de gens qui ont été traumatisés par cet événement.
Alors il ne faut pas tout mélanger, il n'y a pas actuellement de traumatisme. C'est pas le terme. Le terme du traumatisme, c'est été, comme je l'ai dit, des gens qui auraient été concernés par l'explosion, avec des blessures physiques, avec des survivants, avec la confrontation réelle de la mort, comme on dit. Là, aujourd'hui, c'est plutôt du stress et de l'inquiétude sur le futur. Et ça n'a rien à voir, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans la médecine, on est dans la gestion du stress, et c'est vrai que, comme vous l'avez remarqué, on est dans une société de l'hyper-émotion, et ici nous sommes là aussi pour dire aux gens, raisonnez, soyez logiques, adaptez-vous, mais ne sombrez pas dans l'émotion, dans la dramatisation, et ce qu'on appelle pompeusement la psychose collective, qui n'est pas le terme exact, mais c'est vrai que l'idée c'est simplement la vie continue, mais on est juste là pour dire ça aussi.
Oui, du coup, le terme traumatisé est un terme médical que j'ai utilisé à tort, c'est bien ça ?
Non, pas à tort, parce que c'est le terme, on va dire, classique. Mais moi, en tant que médecin, je peux dire qu'à l'instant où nous parlons, les gens qui viennent sont plutôt stressés.
D'accord. Quand là, vous utilisez bon, le terme psychose collective, vous l'avez bien sûr atténué. Mais on a l'impression, dans ce terme, encore une fois, je dis ça, je n'ai aucune connaissance médicale précise, mais on a l'impression qu'il y a un côté aussi peut-être peur irrationnelle, peur pas forcément fondée. Est-ce que vous avez beaucoup de gens ici qui exagèrent les événements ? Peut-être que c'est de là que vient une certaine angoisse ?
Alors c'est vrai, vous avez raison, mais on est aussi parfois dans une société de l'irrationnel, c'est-à-dire qu'on déclare des choses avant d'avoir des certitudes. Donc l'idée c'est, nous n'avons comme je l'ai dit pas de réponse, mais c'est d'attendre les réponses, on va dire, des experts. Et donc attendre les réponses, ça veut dire gérer son stress jusqu'à ce moment-là et ne pas tomber justement dans l'angoisse qui, elle, serait destructrice. Le but, c'est d'avancer.
Comme vous portez une étiquette sur laquelle il est clair que vous êtes docteur, est-ce que vous avez des gens qui viennent vous voir également pour vous parler d'éventuels soucis physiques de type toux, nausées, migraines, comme on peut en voir? Et qu'est-ce qu'il faut penser de ce type de symptômes dans la mesure où vous pouvez vous prononcer sur le sujet?
Alors, je me prononce en disant que sur le site de la préfecture, il est bien clair que notre accueil psychologique citoyen n'est pas pas fait pour ce type de symptômes et qu'il est bien précisé que pour tout ça, il faut aller voir son médecin traitant qui lui aura toutes les réponses, même sur le plan psychologique. Là, c'est quelque chose d'un petit peu à côté, un petit peu à part, qui est plutôt l'échange verbal pour s'entraider.
Est-ce que vous voulez bien nous dire où est-ce que vous êtes localisé pour nos auditeurs? Et également, parce qu'on se demandait avec mon collègue en venant, pourquoi vous étiez aussi excentré?
Alors ça, c'est un choix des autorités. Plus, c'était l'idée d'être quand même rive gauche, mais pas non plus trop près de l'usine éventuellement.
Vous avez des recommandations pour nos auditeurs qui seraient éventuellement en situation de stress liée à cet accident, à cette catastrophe, j'imagine qu'on peut dire catastrophe?
Relaxez-vous, détendez-vous, soyez avec des amis, échangez, profitez de l'instant, et on ne peut pas changer les choses, donc il faut les accepter et aller vers le mieux. Et si vous avez des plaintes ou des récriminations, tournez-vous sur le plan juridique ou associatif. Mais ne tombez pas dans la dramatisation non plus.
D'accord, et surtout ne venez pas à l'accueil psychologique pour venir éventuellement. Vous avez des gens qui sont agressifs, qui sont très énervés?
Il y en a certains qui sont en colère, voilà, en colère.
D'accord, et du coup, vous, pour le coup, est-ce qu'ils sont en colère contre vous? Est-ce qu'ils sont en colère contre les autorités ou Lubrizol?
Ils sont en colère contre la situation de façon globale, peut-être avoir eu un sentiment d'abandon, à tort ou à raison.
Monsieur fort intéressant, ce docteur Navarre, fort intéressant, qui nous a accordé donc cette interview qui permet de remettre un petit peu, de relativiser un petit peu la situation. Et évidemment, puisque nous n'avons pas donné l'adresse dans cette interview, puisque j'ai trop élaboré ma question, comme ça peut m'arriver parfois, eh bien je vous la donne, c'est rue Roger Bézus, dans un grand bâtiment dont j'ai malencontreusement oublié le nom, mais que vous ne pourrez pas manquer, rue Roger Bézus, hein, c'est un très grand bâtiment, avec un café pas très cher et plutôt bon, soit dit en passant. Et puis donc voilà, vous le savez bien sûr, alors il y a eu ce petit événement anecdotique, bien sûr, l'incendie du Brizol, mais la vraie catastrophe du moment, c'est quand même le décès de Jacques Chirac. Le décès de Jacques Chirac, dont on va parler tout de suite, on va surtout parler de sa vie. Mais du coup, tout à l'heure, avec Brick and Lace, je vous parlais de morceaux musicaux qui peuvent parfois nous rappeler des bons moments du passé. Et bien, avec Ousmane, on vous a déterré un morceau musical qui, j'en suis sûr, rappellera à certains des bons moments du passé.
Je débarquais de la Corrèze, paumé, alors faut pas me faire chier. Les dossiers, j'en ai, mais ils vont sauter. 2002, je vais te niquer, je vais me présenter. On m'appelle Chirac, dit l'esquive.
Vous me reconnaissez?
Bah oui.
Pas grave, grosse bourgeoise friquée, ouais. Dégaine de vieille mémé, ouais. Sac à main de vieille mémé, ouais. Jambes de vieille mémé, je vais te mettre à l'air.
Les voyages,
c'est nous.
Les broufailles,
c'est nous.
La choura,
c'est nous.
Les pigeons, c'est vous. Central, c'est Chirac et Bernadette.
Le menottes,
on est super à l'aise. Marché truqué, c'est nous. Les arnaques,
c'est nous.
Emploi fictif, ce qui paie, c'est vous. Sans balles, c'est si Chirac et Bernadette. À la justice, nous, on préfère le pèse. Coup de gyrophare, on est coursé par 36 jeux.
Les voyages,
c'est nous.
Les profanes,
c'est nous.
La choura,
c'est nous.
Les pigeons,
c'est vous. Sans balles, c'est Chirac et Bernadette. Sans les menottes, on est super à l'aise.
Marché truqué,
c'est nous.
Les arnaques,
c'est nous.
Emploi fictif,
c'est nous.
Ceux qui payent, c'est nous.
Central, ici Chirac et Bernadette. À la justice, nous, on préfère le pèse.
Les guignols de l'info qui nous ont apporté quelques bons moments de rigolade. Également Doc Mansour qui nous a apporté quelques bons moments de rigolade, quelques moments de frayeur aussi. Je vous propose, Doc Mansour, donc, comme vous nous l'avez proposé avec votre érudition habituelle, de revenir sur le parcours de ce personnage singulier et finalement assez symbolique d'une époque, je pense, Jacques Chirac.
Avec toutes ses contradictions. Il s'appelle Jacques-René Chirac.
Jacques-René Chirac.
Et Chirac, en fait, c'est un patronyme qui, parce qu'en fait, en Corrèze, il y a plusieurs villages et petites bourgades qui s'appellent Chirac.
Il aurait donc pris un patronyme qui le lierait à la Corrèze.
Oui, depuis son arrière-grand-père qui avait porté ce patronyme, sachant que son père François, lui, était plutôt de gauche, mais catholique fervent, qui a travaillé dans une banque et après s'est installé à Paris, où justement Jacques Chirac sera né. D'ailleurs, il est né à Paris le 29 novembre 1932.
Donc pas du tout le fameux enfant de la Corrèze, les deux pieds dans la bouse, qu'on pouvait se visualiser parfois.
Non, mais il va la connaître très jeune.
D'accord.
Donc c'est en 56 qu'il rencontre justement Bernadette, comme on a entendu. D'ailleurs la chanson m'arrange parce que moi les affaires je voulais pas trop en parler. tout a été dit déjà.
Tout a été dit.
Voilà. Donc Madame Chirac, elle est née en 33. Donc Le personnage, en fait, son aspect physique est très flagrant parce qu'il est beaucoup plus grand que la moyenne pour l'époque. Il mesure 1m89.
Le petit vénard.
Donc, et en fait, on voit son visage. En fait, il est très fin, visage très tiré. Et en fait, il est déjà en conflit à l'époque avec son père, parce qu'ils sont plutôt de gauche à la base. Mais en fait, le père voit en son fils quelqu'un très, très motivé, très bon à l'école. En fait, il est très assidu. Mais il a quelques phrases qu'à droite à gauche, il n'a pas forcément sa langue dans sa poche. Et son père est très respectueux de la hiérarchie, vu qu'il était aussi militaire.
D'accord.
Donc le fils déjà dénote un peu du père. Et en fait, il y a tout ce faciès de Chirac qui est toujours très sec quand il pouvait l'être et qui fera un trait de caractère très particulier.
On voit bien, si je m'abuse, ce faciès un peu particulier dans la bande dessinée d'Astérix, par exemple, La Cité des Dieux, où il est parodié. Oui, voilà.
Donc, il fait l'essentiel de ses études secondaires à Paris. Il y sera diplômé de l'Institut d'études politiques. Et il intègre en 1957 l'École normale d'administration, c'est-à-dire l'ENA.
Nous y voilà.
Bon, il va effectuer son service militaire en tant que lieutenant de cavalerie. À bien noter les dates, 1956-58, durant la guerre d'Algérie, qui va forcément énormément le marquer, car curieusement, souvent, on ne signifie pas forcément cette période de sa vie. Il est qualifié de fanimi. Et fanimi, ça veut dire le fanatique de l'armée, parce qu'il est pro-Algérie française.
D'accord.
Il est même classé parmi les plus radicaux.
Donc il a combattu en Algérie alors ?
Il était posté, mais après il a combattu, ça c'est une autre histoire. Mais il est très partisan pour l'Algérie française. Et,
d'accord.
En revenant, en fait, quand il revient en 59, il sort deuxième de l'ENA dans sa promotion.
Pas mal. On sait qui était le premier ?
Là, je ne l'ai plus, je l'avais noté, mais je ne l'ai plus.
Eh bien, désolé pour lui.
directement, il devient chef de cabinet général de l'agriculture en Algérie, reposté là-bas. Jacques Pélissier, qui lui... il sera avec lui. En 60, il devient auditeur à la Cour des comptes et maître de conférence à Sciences Po.
D'accord. Bon, après tout, c'est plutôt logique.
Oui. Puis deux ans plus tard, il deviendra, et c'est là que ça va marquer encore une fois sa grande partie de sa vie, adjoint au Conseil pour les affaires économiques, puis chargé de mission de secrétariat général du gouvernement, responsable de l'équipement et de la construction du transport, cabinet Pompidou.
D'accord.
Et en fait, pendant tous ces postes, en fait, il commence à s'aguerrir, en fait, et à s'affirmer un peu plus, de plus en plus d'ailleurs. Et en fait, il va faire, on va le remarquer, parce qu'en fait, il est extrêmement efficace.
Mmh.
Et quand il planche sur les dossiers, il n'y planche pas que 2 heures. Il est capable d'y plancher pendant 10-15 heures par jour. Grande force de travail. Mais son ambition, en fait, commence à se déclarer. Il essaie de postuler, du moins, il fait son chemin de carrière, il aimerait bien devenir directeur des transports aériens.
Pourquoi pas ?
Voilà. Donc là, on va arriver vers 65, au moment où il va devenir plus ou moins une vraie carrière politique. Il est élu au conseil d'administration de Saint-Ferriol, 80% des voix, sans avoir posé sa candidature.
Un score de baby-foot pour le futur président Chirac.
Ou de dictateur africain.
Ou de arabe. Dictateur africain, mais je n'ai pas osé la faire.
Ou arabe, hein, je vous la fais. En 1966, à la demande expresse du premier ministre Georges Pompidou, qu'il appellera affectueusement son bulldozer, veut arracher la Corrèze à la gauche.
D'accord, ça sent le parachutage.
Plus ou moins, mais il est originaire de là-bas.
Mmh.
Donc, et c'est à cette époque-là, en fait, au moment vers 67, où il va vraiment commencer, en fait, il va faire la rencontre d'un personnage qui, en fait, au lieu de rencontrer, qui est le grand ponte de Usul, cette petite ville de Corrèze, à ne pas confondre avec un autre nom... Et en fait, il va bénéficier du soutien, qui est très curieux d'ailleurs, parce que l'Espinasse est quelqu'un de gauche, SFIO, très à gauche, qui sera exclu du parti.
On peut comprendre du coup.
Oui, parce que c'est un collabo et ministre de Pétain pendant la Grande Guerre.
D'accord, donc quelqu'un de fort sympathique.
Oui, et vous verrez que toutes les fréquentations de Chirac vont dans tous les sens.
D'accord.
Donc il rencontre ce brave monsieur qui... avec lui, il va commencer à parler. Il voit en lui quelqu'un qui a une grande capacité. Et justement, il se présente. Et en fait, il va quand même... C'est une campagne très acharnée. Il va quand même gagner. Puis un peu plus tard, au terme, en fait, il va devenir secrétaire d'État à l'emploi auprès du ministre des Affaires sociales. Et c'est à cette époque-là qu'il ébauche quelque chose d'extrêmement extraordinaire qui existe encore aujourd'hui. Il fait en sorte de créer l'Agence nationale pour l'emploi.
D'accord.
Okay. L'ANPE, qui deviendra plus tard aujourd'hui
Pôle emploi. Ouais. On les salue d'ailleurs.
Donc c'est à partir de lui. Donc vous pouvez retrouver les interviews avec Lina et autres où il dit entre 70-80% des salaires. Et à l'époque, en fait, à l'époque, il prédisait même que le chômage allait être multiplié par 3.
Visionnaire donc ce monsieur.
On est en 67.
Chirac. D'accord.
Donc en 68, il est élu conseiller général du canton de Meynac, toujours, réélu en 70-76. Et durant les événements 68, il va jouer un rôle important en fait en négociant avec les syndicats. Donc là, encore fait d'armes, et en fait, il est en train de se forger de plus en plus un caractère assez tranchant quand il a envie de l'être.
Et une réputation, j'imagine aussi.
Oui, parce qu'il est intraitable. Quand il a décidé quelque chose, il s'y tient.
D'accord.
Et elle est, en fait, à la même époque, juste pour revenir dans le passé, pour montrer que c'est pas un personnage comme les autres, c'est qu'il donne des interviews, mais en fait, qui sont un peu... qui donnent une allure du personnage très sec, très froid. Et un jour, il a même dit à un journaliste, « Moi, j'aime que la musique militaire. » Ce qu'il ne peut pas forcément faire de quelqu'un de très sympathique.
En effet.
Mais en fait, je vais vous passer une petite archive où il sort des phrases quand même assez... on connaît toutes ces phrases, mais celle-là est plutôt intéressante. C'est une sur l'histoire et l'injustice.
Il n'y a pas de plus grande injustice que de refuser à un peuple le droit à l'histoire.
Voilà, il est attaché à l'histoire. Et en fait, cet attachement à l'histoire va le mener à quelque chose que lui-même avait plus ou moins abandonné. Parce que quand il était jeune, étudiant, il travaillait au musée, il servait le café, tout ça. Et il s'était intéressé au sanskrit. Il espérait devenir spécialiste du sanskrit. Il a commencé à apprendre le russe, l'anglais. D'ailleurs, il était parfaitement bilingue en réalité. On a l'impression qu'il jouait le rôle du personnage bête et idiot, alors qu'il n'était pas du tout. À côté d'être un tueur politique extrêmement aguerri.
Il m'avait fait peur, Doc Mansour.
Ah. Donc, le personnage, lui, en 68, il est avec Chaban Delmas. Il se rapproche plus ou moins de Chirac, il deviendra son ministre des Finances. Et plus ou moins avec les contacts et la sympathie qu'il a, en fait, les deux hommes n'ont pas une véritable sympathie parce qu'en fait, à peine ils se connaissent, ils sympathisent et ça se dégrade quasiment aussitôt.
Donc là, c'est Chirac et Pompidou ou Chirac et Chaban ?
Giscard, déjà.
Giscard, pardon. Je confonds les présidents de la 5e. Qu'est-ce qui m'arrive ?
Ah bah oui. Et en fait, il a du mal avec Valéry Giscard d'Estaing. Ils sont en opposition sur beaucoup de choses en réalité. Chirac est un pragmatique en réalité, parce que quand on voit son parcours, il distribue l'humanité à l'époque avec son père, plus ou moins. Il est de droite. Il crée le Pôle emploi, qui est en réalité une mesure sociale.
Oui.
Donc une valeur plus de gauche.
Il joue sur les deux tableaux ou est-ce qu'il aurait peut-être éventuellement des sensibilités un petit peu plus à gauche que ce qu'on aurait pu croire ?
Ah, je pense qu'il avait plus de sensibilité, mais je dis pragmatique politique, vous allez voir pourquoi. Au fur et à mesure de sa carrière, donc, il commence à viser plus haut. Donc il est parlementaire, il se dit gaulliste, mais concret. Il a une obsession, dépasser la lutte des classes.
D'accord.
En fait, c'est ça qui l'attache beaucoup, et pour lui, c'est ce qui fait le fondement du gaullisme.
Il aurait peut-être été marqué par 68, tout ça ou...
Ah oui, il a été extrêmement marqué. Et le 27 mai 74, Georges Chirac est nommé Premier ministre par Valéry Giscard d'Estaing. La preuve que Valéry Giscard d'Estaing était quand même pragmatique, même s'ils avaient des tensions. En même temps, il voit bien que c'est un homme compétent quand il a envie de l'être. Pas quand il a envie de saboter qui que ce soit, parce qu'il va le faire aussi, ça. Donc... il s'arrange comme il peut, il fait en sorte de gagner toutes ses élections, de faire en sorte que tout avance comme il veut. Et en fait, il voit que le climat est plus ou moins paisible, plus ou moins en France, parce qu'on arrive à la fin des Trente Glorieuses. Ça, faut pas oublier. Et en fait, le problème, c'est que ça se dégrade de plus en plus entre lui et ce fameux président. Et en fait, jusqu'au 15 juin 75, où Chirac annonce qu'il démissionne.
C'est un homme qui aimait bien les coups de poker, Jacques Chirac, j'ai l'impression.
Ouais. Donc, Valéry Giscard d'Estaing, lui, va un an à peu près, il va décider de remettre. De reformer tout le remaniement ministériel, d'accord, comme on l'appelle, après l'échec de la droite au cantonal d'ailleurs, parce que la droite est en train de prendre plus ou moins. Et c'est là qu'on voit que Chirac est beaucoup plus pragmatique, c'est qu'il ne se rapproche pas de la gauche ou des socialistes, mais. Alors là, c'est un peu plus ambigu, parce que dans les deux biographies, on sent que, aussi bien celle de Mitterrand que la sienne, qu'il y a une espèce de rapprochement assez curieux entre les deux hommes.
Mmh.
Parce que Mitterrand n'est pas loin, il arrive.
Oui. Est-ce que Chirac le sent arriver, du coup ?
Je pense qu'il le sent. Alors, c'est un opposant à Chirac, mais il le sent arriver.
D'accord.
Et en fait, ah, ça, c'est une rumeur à vérifier, écrit un peu partout dans plusieurs livres. C'est qu'en fait, plus ou moins sous l'impulsion et peut-être que l'idée aurait été soufflée à Chirac par Mitterrand de créer son propre parti, en fait, le RPR.
Et donc là, ça va commencer la grande épopée du RPR, là.
Voilà. Et en fait, faut pas oublier qu'il y sera pendant très longtemps. Et en fait, il crée un nouveau rapport de force au sein même de la droite en faisant ça. En sachant que, en même temps, ce qui sera le Front National est en train de monter tout doucement. Et en fait, il continue, il commence à se présenter aux élections. Et en plus, il va adopter une attitude extrêmement violente et critique envers le gouvernement de Raymond Barre. Donc, lors des élections législatives en 78, c'est-à-dire qu'on dit qu'il a trahi Raymond Barre et toute la guerre. Mmh. Et en fait, ils vont quand même avoir des sièges. Et ils s'en sortent plutôt bien. Bon, il sera victime d'un accident de la route à cette même époque. Et apparemment, qu'il lui laissera des séquelles, plus qu'on le croit. Parce que vu qu'apparemment, les diagnostics ont été plus ou moins minimisés.
D'accord.
Et c'est vers cette période-là où il apparaît dans une émission de radio. Et je voulais juste écouter la teneur de ce qu'il dit.
C'était un peuple qui n'avait pas d'écriture, qui n'avait pas de structure étatique, qui avait une organisation villageoise, avec à sa tête un chef qui s'appelle le cacique, dont on connaît mal en réalité le fonctionnement, parce qu'il y a peu de témoignages, mais c'était pas parce qu'on n'a pas de structure étatique ou d'écriture qu'on n'a pas d'imaginaire, de spiritualité, de culture. Et ces gens avaient de très grands artistes, comme en témoignent les objets qui ont été rassemblés par Jacques Kerchache, qui sont les quelques 80 plus beaux objets qui restent de cette civilisation taïno-arawak. On connaît mal leur organisation. Et on sait qu'ils pratiquaient le jeu de balle de façon très active et
probablement. On en parlera tout à l'heure, oui. Du batté.
Du batté.
Vous êtes devenu un expert en football et en batté.
Non, parce que personne n'a jamais vu jouer au batté. Parce que dès que les Espagnols sont arrivés, pour essayer de protéger leur propre culture.
Là, vous parlez des Espagnols, de Christophe Colomb, pas du Real Madrid, hein, on est bien d'accord.
Non, oui.
Parce que ce soir, il y a une légère confusion possible.
Oui, pas de commentaire sur ce point. Quand les conquistadors sont arrivés, les Taïnos ont cessé de pratiquer ce qui pour eux était une action tout à fait courante, quotidienne et essentielle. Et probablement très spiritualisé, qui à l'origine avait, j'imagine, quelque chose un peu comme le sumo japonais. Et ils se sont arrêtés immédiatement pour pas se montrer à des étrangers dans l'exercice de quelque chose qui était très spirituel. Si bien que personne n'a jamais vu comment on jouait à la balle. Mais il y avait dans chaque village au moins deux et parfois trois ou quatre grands terrains de jeu, dont l'un devant la maison du cacique.
Voilà, donc vous avez fait un homme en fait extrêmement cultivé.
D'accord, ouais. Mais là du coup il cache pas du coup cette culture en l'occurrence.
Non, mais curieusement on l'a pas montré non plus.
D'accord.
Donc non seulement il est de grande culture, il est très fin et comme vous avez vu il cite aussi bien des peuples mayas et incas, le sumo japonais qui sera une fascination pour lui le sumo.
Les taïno-arawak aussi qui sont un peuple assez peu connu finalement.
Donc pour ceux qui connaissent Gérard Slama qui a été longtemps sur France Inter. Eh bien, il va lui écrire l'appel de Cochin, célèbre discours qui restera célèbre, où en fait, il s'attaque directement à la politique de Giscard d'Estaing en disant qu'il est contre l'infédération de la France et ceux qui veulent la rabaisser, et aussi ceux qui, pour lui, en fait, aident et sont partisans des partis de l'étranger.
Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'éminemment gaulliste là-dedans quand même ?
Ah, complètement, parce que là, c'est quasiment les mêmes termes. Donc, à partir de là, il va se présenter tout seul. Il est réélu au RPR, en plus, il redevient président du RPR à 97%.
Encore un score de président africain.
Ouais. Il se présente en 81, on sait ce qui va se passer en 81. Il perdra l'élection, mais il sera opposant politique direct de Mitterrand, tout en ayant parfois les mêmes idées.
Est-ce que ça lui profite pas aussi, cette posture d'opposant qui peut éventuellement lui permettre de prendre des forces pour la suite, puisqu'on la connaît, la suite, nous, maintenant?
Ah bah oui. Et en fait, bon, comme on sait, en 86, il deviendra Premier ministre de la coalition avec Mitterrand, sur lesquels ils sont d'accord sur une partie, pas d'accord sur l'autre. Et d'ailleurs, Chirac lui-même avouera que lors du premier conseil des ministres, quand François Mitterrand était venu, s'est assis, il a dit que là, on a compris qui était le patron.
D'accord.
C'est-à-dire que les deux hommes ont deux caractères, mais s'apprécient en réalité, plus que d'autres.
Vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre.
Voilà. Ça, c'était quand il y avait le fameux débat où Jacques Chirac avait dit « Il n'y a pas le Premier ministre et le président, il y a juste deux candidats. »
Et là, Mitterrand qui répond « Vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre.
» Et en fait, à partir de là, on voit qu'il va faire en sorte, en fait, à l'époque, il va participer à la création et la fondation de ce que va devenir le RMI d'abord, le revenu minimum d'insertion, qui deviendra le RSA. Encore une mesure sociale en réalité, bien que certains diront aussi, ça a été écrit dans la presse à l'époque, c'était pour acheter la paix sociale. Hein.
Oui, c'est un argument qui peut se débattre, on en reparlera oui. peut-être.
Et en fait, toutes ces mesures en fait, qui va faire en sorte de faire passer avec Mitterrand, et en fait, bon, Mitterrand en fait, et lui ont une petite querelle parce qu'il y a certaines lois qui vont passer, pas d'autres, et là on va abuser du fameux 49-3. Il a réussi en fait à faire plus ou moins que le chômage ralentisse, même s'il dépasse les 2,5 millions à l'époque. Mais pour lui, ça ne lui apparaît pas suffisant et en fait, il commence à avoir des ennemis en interne au RPR.
Oui, des jeunes loups peut-être aux dents longues.
Oui, et puis qu'il a plus ou moins fait monter, comme toujours.
On pense notamment à un qui va finalement le descendre d'ailleurs.
Et en 88, Mitterrand a 72 ans et vont sortir encore vainqueurs. Et en cette période-là, Chirac fera encore ses armes, fera en sorte qu'il arrive à s'en sortir. Quand il va se présenter juste après que Mitterrand se soit retiré, il est désespéré en fait, parce qu'une partie de ses troupes l'ont abandonné pour cette fameuse élection de 95.
Ouais.
Et en fait, il reçoit un coup de fil de ce fameux François Mitterrand, qui plus ou moins, alors je ne sais pas si c'est de la légende, mais je l'ai lu dans plusieurs biographies, qui lui dit qu'en fait, Jospin ne passera pas et que ce sera lui.
Oui.
À croire qu'ils se sont entendus quelque part sur le sabotage des uns et des autres.
Jospin avait-il besoin qu'on le sabote?
Ah, ça, je ne sais pas si on avait besoin, mais...
On salue bien sûr Lionel Jospin.
Parce qu'en fait, ce qu'on peut soupçonner au suite de toutes les lectures, c'est que Chirac n'était pas très sûr de lui à ce moment-là, même s'il savait qu'il allait gagner, tôt ou tard. Mais... Je pense qu'il avait besoin d'un soutien et il avait sous-estimé quelque chose que Mitterrand avait très bien compris. Chirac a une sympathie.
Que Jospin n'a jamais eue.
Non, je prendrais bien un café avec Chirac, mais pas avec son jeune protégé.
Ah ben ça...
C'est un peu comme ça, qu'on peut penser la chose. Après, on le connaît pour toutes ces déclarations qu'ont toujours fait, on va dire, plus ou moins
beaucoup à marquer
l'histoire. Mmh. Le bruit et l'odeur, le fait qu'il est plus ou moins... avec Margaret Thatcher, lorsqu'il avait négocié avec elle, à un moment, il va être un peu agacé par ce qu'elle lui demande, et à un moment, il dira, ouvre les guillemets, « Qu'est-ce qu'elle me veut ? L'autre mégère, mes couilles sur un plateau. » Fermez les guillemets.
C'est très français. Voilà.
Ou il fera dire à un journaliste, en le regardant droit dans les yeux, « Je vous demande juste 2 minutes d'attention. » C'est pas trop demandé pour un journaliste. Donc il a des phrases quand même extraordinaires, ce personnage.
Ça fait partie du personnage aussi, peut-être. Voilà. Tout ça, c'est de la com', c'est très maîtrisé, non ?
Maîtrisé, mais je pense que c'est pour ça que je vous ai dit que c'était pragmatique, parce qu'il l'a prouvé qu'il était pragmatique en 2003, à l'ONU, n'y allant pas lui-même, mais en voyant Dominique de Villepin pour dire non à la guerre en Irak.
Dominique de Villepin, finalement, qui a toujours été plus ou moins son gilet pare-balles humain, en fait.
Voilà, quasiment.
D'accord.
Entre deux, il a été, comme on a vu dans la petite chanson des Guignols, éclaboussé par plusieurs scandales lors de la mairie de Paris.
Enfin, il saute bien dedans quand même, hein, il n'est pas éclaboussé par ça. Oui.
D'ailleurs, au moment où il était maire de Paris, donc j'ai un peu pas trop parlé exprès, c'est qu'il gérait Paris comme si chaque arrondissement était des mini-villages.
Ouais, ou des secteurs, par exemple, comme on a pu en entendre parler dans certaines de vos anciennes chroniques.
Oui, voilà. Donc lui, il gérait ça comme ça. Et en fait, alors, Jacques Chirac, maintenant qu'il nous a quittés, pourquoi je dis que c'est quelqu'un de pragmatique, c'est que c'est quelqu'un qui, systématiquement, selon qui l'entourer et comment il a été élu, il faisait en sorte de faire une politique de concession. Pas forcément qui plaise à tout le monde, mais qui fasse en sorte que on ne s'attaque pas trop ni à sa personne, ni à son entourage.
C'est pas plus mal qu'il s'y prépare, parce que c'est quelqu'un qui va être obligé aussi de faire des concessions assez vite.
Oui, mais quand on voit, il n'en a pas tant fait que ça. Hein. C'est pour ça que ça a été aussi un tueur politique, en éliminant ses plus ou moins ses adversaires, toujours de façon très courtoise d'ailleurs.
Oui, après, c'est une forme de courtoisie qui peut être discutée quand même.
Oui, toujours, mais après... Alors, tous les témoignages disent bien que, politiquement, c'était quelqu'un de très sec et tranchant, mais, en dehors de ça, c'était quelqu'un de très sympathique, qui recevra même le président chinois chez lui, en Corrèze, qui déplairait à M. Hollande, à l'époque. Et en fait, en diplomatie, là où il était plutôt fort en diplomatie étrangère, principalement politique étrangère, c'est qu'il avait toujours des liens de sympathie. Mais c'est pour ça qu'il est autant apprécié.
J'ai bien peur, malheureusement, on aime bien parler du président Chirac, mais le temps va commencer à nous manquer. Je vous propose, mon cher Ousmane, qu'on s'écoute la première partie de l'interview donc, de ces charmantes dames de Regards sur la Palestine, hein, de l'association Solidarité France-Palestine, et qu'on ensuite s'écoute la suite demain, en début d'émission, si ça te paraît bien. En tout cas, moi, ça me paraît bien. Je propose qu'on s'y mette direct. Nous sommes donc avec nos invités Geneviève et Cara, donc de l'association AFPS. Mesdames, bonjour.
Bonjour.
N'hésitez pas à bien parler dans les micros. Voilà. Donc, l'association AFPS, Association France-Palestine Solidarité. Première chose, commençons par le commencement. Qu'est-ce que c'est que cette association? On va commencer par Geneviève.
Eh bien, c'est une association qui a été créée... je ne sais pas trop quand elle a été créée, mais elle a pour vocation le soutien au peuple palestinien, notamment dans sa lutte pour la réalisation de ses droits nationaux. Et elle agit pour une paix juste et durable en lien avec le peuple palestinien fondée sur l'application du droit international. L'AFPS est une association nationale avec des groupes locaux qui chacun, dans cette optique, réalise des actions, des informations, des festivals et voilà.
D'accord, donc justement vous faites bien de le dire puisque ce qui vous amène ici... En premier lieu, en tout cas, ce qui a attiré notre attention, c'est donc le 4e festival du cinéma palestinien Regards sur la Palestine que vous organisez. Alors, si je ne me trompe pas, c'est une fois tous les deux ans, c'est ça?
C'est ça. Et alors, moi, je vais vous dire, adressez-vous à Cara, parce que Cara, c'est elle qui a créé le... Non?
Allez, les auditeurs ne le savent pas, mais j'ai une fâcheuse tendance à interroger tout le temps l'invité qui est à ma droite et jamais celui qui est à ma gauche. Madame Cara, vous êtes donc une des créatrices de Regards sur la Palestine, alors?
Oui, enfin, disons que j'ai adhéré à l'association, j'en suis devenue militante, et que comme je suis une fondue de cinéma, on a proposé de faire un festival de cinéma. Voilà. Donc c'est comme ça un petit peu que ça a été créé, il y a donc, puisque c'est tous les deux ans, il y a donc en 2013. Hein. Et ça a lieu donc cette année le 4 et 5, 6 octobre, hein, c'est-à-dire ça commence vendredi.
Ce vendredi, ce sera donc à l'Omnia, hein, le fameux Omnia rue de la République dont on vous parle souvent. Mais on vous le rappellera, ne vous inquiétez pas, chers auditeurs, pas la peine de prendre des notes tout de suite. La question, évidemment, la première question qui m'est venue quand j'ai entendu parler du festival du cinéma palestinien, c'est le cinéma palestinien, je me doutais bien que ça existe. Mais j'ignorais qu'il avait une telle importance. Et pourtant, là, quand on regarde à l'intérieur de ce petit prospectus là, qu'on a dans les mains, on se rend compte qu'il y a c'est une production, mille facettes, le cinéma palestinien. Comment vous-même, vous avez découvert le cinéma palestinien?
Comment je l'ai découvert? C'est que quand on a décidé de faire un festival, je me suis un petit peu penchée sur le problème, puis je suis allée regarder un petit peu partout. C'est-à-dire qu'après, vous prenez contact, vous regardez les maisons de production, qu'est-ce qu'ils ont comme possibilité de ce cinéma-là, et puis après ça, vous prenez contact avec les producteurs, avec les distributeurs, et puis vous choisissez les films qu'ils vous proposent, ils vous envoient des liens vidéo pour que vous puissiez les regarder. Après ça, avec le comité de programmation, on regarde les films, on les choisit, on les accepte ou non. Voilà, ça se passe un petit peu comme ça. Il faut dire quand même quelque chose, c'est que si on a fait une biennale, c'est qu'il y a bien une raison. C'est-à-dire qu'effectivement, ce n'est pas une grosse production comme les films français, par exemple, ou américains, ou ce que vous voulez. Mais donc, il y a quand même une production... Mais c'est pour ça qu'on a fait tous les deux ans.
Il y a quand même des films sur la Palestine ou sur cette région-là, oui, qui sont faits par d'autres.
Oui, voilà, c'est ça. C'est qu'il y a d'autres, ça s'appelle quand même Regards sur la Palestine. Donc ça veut dire que c'est plusieurs regards qui peuvent venir de d'autres pays sur ce coin du monde où ça va pas très fort, on va dire. Voilà. Donc effectivement, cette année, par contre, cette année, on a beaucoup de films palestiniens, mais il y a un film qui vient des États-Unis et un film qui est italien.
Voilà. Justement, puisqu'on parle de ce film qui vient des États-Unis, donc Salam, hein, si je ne me trompe pas, il a attiré particulièrement mon attention parce que c'est le seul film dans cette programmation qui finalement n'a pas l'air directement relié à la Palestine. J'entends, on voit, donc c'est l'histoire, je vais vous lire carrément le petit résumé du film. Une chauffeuse Lyft réalise sa ronde de nuit à travers New York en attendant des nouvelles de vie ou de mort de sa famille en Syrie. Pourquoi ce film ?
Parce qu'elle est palestinienne et qu'elle a été... l'héroïne est palestinienne et qu'elle a été chassée de Palestine et qu'elle habite en Syrie et qu'elle est chassée de Syrie aussi.
D'accord,
mais ouais. À l'origine, elle est palestinienne. Elle le dit dans le film, hein.
Donc c'est un peu finalement la double peine pour cette, si c'est je peux me permettre d'employer cette expression, pour ces Palestiniens réfugiés en Syrie qui du coup se retrouvent réfugiés aux quatre coins du monde.
Voilà,
quoi.
Absolument.
D'accord, donc forcément ballottés par tous ces conflits. Je trouve que ça soulève une question quand même, parce que là c'est pareil, quand on regarde tous ces films, on en revient toujours plus ou moins souvent au même sujet, malheureusement c'est le conflit israélo-palestinien. Est-ce qu'il existe un cinéma palestinien qui est complètement détaché de ce conflit israélo-palestinien, ou est-ce que vraiment on sent que toute la culture de cette région est forcément à minima influencée par ce conflit majeur et qui dure et dure?
Ben moi, j'ai un petit peu envie de vous dire, c'est qu'il y a quand même, quand il y a un sujet, il y a différentes façons de le traiter. Et donc, on peut le traiter en montrant exactement qu'est-ce que c'est que ce conflit, comment ça se passe au jour le jour, etc. Il y a un film comme ça dans la programmation qui s'appelle Samouni Road, qui est d'ailleurs un documentaire et non pas un film de fiction. Et puis, donc, voilà, ça, c'est une des premières façons de traiter les choses. Et la deuxième façon, c'est de faire une fiction qui va pas vous parler directement du conflit, mais qui va vous parler des conséquences de la vie là-bas et de comment ça se passe. Et en créant une... C'est comme un roman. Soit vous écrivez un roman avec une histoire, mais que ça va ce conflit va faire partie de l'histoire, soit vous écrivez un essai sur le
Mais en sur fond, le en souvent, en fond d'écran, il y a quand même ce pays.
Absolument.
Hein, et ses traditions.
Oui, là, notamment, on peut penser au film Wajib. Vous-même,
c'était à celui-là que j'étais en train de penser. Bon, c'est vrai que celui-là, c'est donc c'est un professeur qui habite professeur à Nazareth, donc qui prépare le mariage de sa fille et qui demande à son fils, qui est palestinien mais qui habite à Rome, il me semble, et qui est architecte, ça, de venir, selon l'habitude là-bas, de distribuer les faire part de mariage avec son père, avec lui, à ses amis. Et donc ça, ils se voient rarement, et là, ils vont se voir, ils vont être obligés, en fait, de discuter et de faire montre de leur différence de vue aussi. Hein.
Oui, c'est ça, leur différence de vue. C'est-à-dire que ce film-là, il est vraiment particulier parce qu'il il parle vraiment d'une tradition palestinienne qui est forte, c'est-à-dire l'obligation de donner de la main à la main une invitation pour un mariage. Pas de l'envoyer par la poste, mais de le donner de la main à la main.
C'est ce qu'on appelle le wajib.
Voilà. Donc ça fait c'est une rencontre entre le père et le fils qui se sont pas vus depuis longtemps, et le père qui veut pas reconnaître son fils comme il est. C'est-à-dire qu'il dit toujours qu'il est médecin, alors qu'il est architecte. Il dit toujours qu'il va venir vivre en Palestine, alors que le fils ne veut pas du tout revenir vivre là. Et donc voilà. Alors, mais il y a quand même, je dirais, grossièrement quand même, mais un point commun sur à peu près tous les films, c'est l'humour. L'humour des Palestiniens.
Oui, ça, j'ai hâte qu'on y revienne, parce qu'il y a un film qui a vraiment retenu l'attention de mon cher collègue Ousmane qui est là avec nous. On va en reparler sans souci. Mais justement, là, je vous interromps tout de suite parce qu'on parlait de relations père-fils et je regarde cette affiche. Je vois écrit Mohamed Bakri et Saleh Bakri. Est-ce que les acteurs aussi sont père et fils?
C'est dans lequel film, ça?
Celui-ci, non, Wajib.
C'est dans celui-là, toujours, oui. Ce film-là, je crois qu'il était tourné en Palestine. Hein, donc voilà. Si la question, c'était de savoir quels étaient les comédiens.
Est-ce que même son père et fils, ou est-ce que pas du tout?
Oh, je crois pas, non.
D'accord.
Enfin, je pourrais pas affirmer, mais je
crois
pas.
On regardera. Oui, donc du coup, autre question, parce que là c'est pareil, moi j'ai lu, donc je n'ai pas vu le film, hein, j'ai lu le petit résumé tout à l'heure. Votre festival s'appelle Regard sur la Palestine. Là, c'est un film donc produit à la fois par la Palestine, mais également par la France, par l'Allemagne, la Colombie, le Qatar, EAU, je ne sais même pas ce que c'est, les États-Unis d'Amérique, j'imagine, ou je ne sais pas.
Non, EAU, les États arabes unis.
Émirats arabes unis, bah oui, oui enfin ouais. Bon, c'est pas toujours facile. Hein. Et la Norvège, enfin bref, on voit une multitude de pays. C'est quand même l'histoire d'un fils qui, si je comprends bien, a du mal enfin d'un père surtout, qui a du mal à accepter que son fils se soit expatrié. En Italie, on imagine qu'il a une autre culture, d'autres traditions, tout ça. Est-ce que aussi cette espèce d'origine multiple de la production, est-ce que ça permet aussi de porter un regard du reste du monde sur la Palestine, ses traditions, sa culture, ce qu'elle est ?
Absolument. Enfin, d'une façon plus générale, oui. D'une façon plus pratique, je pense que c'est une question d'argent. J'en sais rien, mais vraiment, mais je pense que c'est ça. C'est toujours très difficile de faire une production. Et donc, il faut aller chercher l'argent là où il y en a. Et je pense que ceux qui produisent, là, par exemple, je pense qu'ils sont quand même touchés par l'idée du film. Mmh. Hein. Mais bon, voilà, si vous voulez des questions, avoir des réponses sur les questions de la production palestinienne, il faut venir voir le premier film. Hein.
Mais justement.
Celui-ci. Ouais. Parce que il va y avoir un débat après qui va être animé par un journaliste de Télérama et que le débat, c'est à partir du film d'Elia Suleiman, parler de la réalisation et de la production du cinéma palestinien. Donc là, vous venez, vous posez les questions et vous aurez les réponses.
זוהי יונה צייד, הדרף הוא עוד בית של יונה המנסה לשרוד תחת שלטון העית בוא נעשה משהו אופטימי יותר הרי כל יום אני מתעורר, רואה איזה אלף שוטר אולי הם באו לעצור סוחר הוא פה או לא, הם באו להרוס את הבית שלה, שכן שלו מה קורה פה? בוא הקצינה סובבת את הגטו למה קשה לו? ומי יענה לו? לעם ואיפה שאלך תירוצים מקבלים את פניי עברתי על החוק, לא החוק עבר עליי די די, רבותיי כאן נולדתי, כאן נולדו גם סבותיי לא תתנו אותי משורשיי אם תרצו אין זו אגדה עוד לא השארתם לי לבדוק מפסת לעמוד עליה ולבטא אותה
מים לא חריף נחג'ורי
וכאן הרסתם את ביתי ואם זה לא חוקי מים שלך בן דודי אני מנסה לבנות בית ומה שנבנה לי נמצא בדור המאו שימצא במקום שבו מלא אנשים עם הבטחות שיעבו את האור שבקצה המנהרה אבל זה רתח פה עוד רכבת דריסה בשיר הזה אין צנזורה יש גדר ביוף מסילה קרא לי זרחת כתורה ותוסיף לי זה פלפל בצבע לבן ומה שיתעטש ממנו הוא אקדח שניתן בכל הדברים שאמרתי רק נהיה להם חול ויש את האנשים שעומדים בתור שיש להם זיוף בחיוך וחיוך בסיבוך כל עוד הסיבוך בן אבל תדע שזה חבל סבוך מדי זה לא גזענות זאת ציונות די זה לא בורות זה רק התחפרות בבורות
מה אם לא חריף נחשו לאום
בית הרוס ובגינה שמונה מסילות וביום עוברות לפחות 200 רכבות מאחורי החורבה גדר הפרדה שאמור להיות בין הבית למסילה אך זה נמצא בין שניר לבין ניר צבי וטענת עירייה שהכל שם על החוקי השנייה מה עם השכונות החוקיות שיש בהן? קופת חולים מוקפת בביוב גן ילדים מוקף בביוב על זה אין תירוץ פשוט העירייה לערבים לא דאגה כאן לממשלה יש משאלה מקסימום יהודים על מקסימום אדמה מינימום ערבים על מינימום אדמה הבית הזה לא קיבל אישור מהחוק
Voilà, voilà un petit morceau donc de rap palestinien, c'est Dame avec Born Here, donc sur Radio HDR. Voilà, l'heure bientôt va nous séparer. J'en profite donc pour vous rappeler que vous pourrez retrouver la suite de cette interview demain. On va continuer de parler bien sûr de regard sur la Palestine, que vous pourrez retrouver les 4, 5 et 6 octobre. Donc le 4, c'est demain bien sûr à l'Omnia, hein, rue de la République, avec bien sûr toutes les infos sur la programmation dans les petits fascicules qu'il y a un petit peu partout. Vous pouvez venir en chercher à Radio HDR si vous voulez, et puis bien sûr sur le site de l'Omnia. Et moi je vous laisse avec les mains viriles et puissantes de l'ami Loïc, qui va vous faire une super émission avec l'ami Inès. Salut à tous, et donc à lundi pour ma part, et à demain pour votre Blabla Mix avec Ousmane.
Ciao.